C'est un très bel évangile pour le temps du carême, parce que c'est justement le. On sent que petit à petit la pression monte autour de Jésus et que le rejet du Christ se fait de plus en plus pressant. Alors qu'on pourrait penser que le fait d'apporter la miséricorde, au contraire, pourrait encourager les uns et les autres à se rapprocher du Seigneur. Il y a une première chose dont on peut s'étonner, c'est la femme est surprise en flagrant délit d'adultère. Mais où est l'homme? Puisque dans la loi de Moïse, non seulement la femme, mais l'homme aussi devait être lapidé. Et donc, du coup, on se dit, Jean, est-ce que c'est parce que c'est un homme qui raconte ça, et donc par complaisance avec celui qui était en faute, eh bien, ne le nomme pas? Ou peut-être il y a autre chose que veut nous dire Jean. Jean, quand il se relate cet épisode-là, veut nous parler de l'humanité. L'humanité qui est invitée à être épouse, l'humanité qui est invitée à rentrer dans une alliance. Veut nous parler d'Israël qui aussi a été adultère et s'est tourné vers d'autres dieux. Mais au-delà de l'aspect, j'allais dire, plus juridique de la chose, ce qui est intéressant, c'est de voir le basculement qu'il y a entre la femme qui est au milieu, par deux fois c'est dit dans Jean, et puis progressivement, ce n'est plus la femme qui est au milieu, c'est Jésus qui est au milieu. C'est Jésus qui est celui qui est accusé d'une manière ou d'une autre, celui qu'on met en doute et dont on est... dont la parole peut-être est remise en doute. Est-ce qu'il va, oui ou non, suivre la loi de Moïse? On voulait le piéger. Et il écrit sur le sol. C'est la seule fois où il est dit que Jésus écrit. C'est la seule fois. Il n'y a pas d'autre fois dans l'Évangile, comme toute proportion gardée, comme Socrate, il n'a jamais rien écrit. Et alors, du coup, on peut se poser la question... Qu'est-ce qu'il a écrit? Sur les tracés des traits sur le sol, il écrivait des traits sur le sol. Qu'est-ce qu'il a écrit? Et là, les interprétations sont multiples. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui n'écrit qu'une seule chose dans sa vie, évidemment, et a fortiori le Christ, mais on se pose la question, qu'est-ce qu'il a voulu nous les dire? Mais, alors, une interprétation serait que, au fond, il écrivait sur le sol le péché de ceux qui regardaient la femme. Et ces hommes-là qui regardaient cette femme adultère, qui l'avaient traînée là au milieu, vous avez vu certainement le très beau film La Passion de Mel Gibson ou Monica Bellucci, hein, je ne sais pas si c'est autobiographique, mais en tout cas joue le rôle de la femme adultère, et elle en joue très bien. On voit progressivement qu'ils étaient arrivés avec leur pierre, etc., et en lisant, clac, ils lâchent les pierres. Parce que c'est peut-être leur péché à eux que le Christ a décelé et a mis devant leurs yeux. Celui qui est tout de suite la question, celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Ils s'en allèrent à commencer par les plus anciens. Et c'est très beau de voir au fond ce passage d'une personne accusée. Et c'est le Christ, au fond, qui prend sur lui l'accusation. Il prend sur lui l'accusation. Et c'est ça la miséricorde. Il ne l'encourage pas dans son péché, puisqu'il dira, va et ne pêche plus. Hein, voilà, moi non plus je ne te condamne pas, c'est-à-dire je ne te condamne pas à la lapidation. Il l'appelle femme comme il appellera la très sainte Vierge du haut de la croix, « Femme, voici ton fils », c'est-à-dire il la restaure dans l'alliance, il la restaure dans l'amour, alors qu'elle s'était détournée de l'alliance et de l'amour pour aller vers des contrefaçons de l'amour, qu'est l'adultère. Hein, il restaure cette femme, il restaure l'humanité, puisqu'on a dit au début que cette femme-là n'est pas simplement, c'est l'humanité entière qui est restaurée dans l'amour par l'offrande du Christ et sa miséricorde. Hein, et du coup, et c'est très beau de voir je sais pas si vous avez le texte, mais en tout cas, ce serait intéressant de le retravailler un stylo en main, parce que voilà, c'est Jésus qui à la fois s'abaisse pour écrire, il redresse pour parler celui d'entre vous qui n'a pas péché, jette la première chaise, il s'abaisse de nouveau, continue d'écrire, et puis il redresse à nouveau, c'est-à-dire que, et là les interprétations étaient magnifiques, à la fois, parce que se redresser, vous savez ce que ça veut dire, c'est pas simplement se redresser comme tout à l'heure quand on va professer notre foi, on va se redresser, on va se mettre debout. Redresser, c'est ressusciter. C'est on se met debout aussi dans la messe comme signe de résurrection. C'est-à-dire que une fois il s'abaisse pour Israël, hein, et pour lui remettre ses fautes, et il se relève pour lui remettre ses fautes, une autre fois il s'abaisse pour la femme adultère, et il se redresse, il ressuscite, il se relève et la relève pour la femme qui a péché. Donc c'est beau de voir au fond comment il devient progressivement le centre, il prend sur lui nos péchés, dira Saint-Pierre, il prend sur lui nos fautes, hein, parce que la femme c'est ensuite le cadet des soucis, hein, de ceux qui étaient les accusateurs. Et qu'est-ce qui va sauver la femme? Qu'est-ce qui va sauver la femme? C'est qu'elle se trouve seule avec Jésus. C'est ça qui la sauve. Elle se trouve seule avec Jésus. Où sont tes accusateurs? Quelqu'un t'a-t-il accusé? Où sont-ils? Personne, Seigneur, ne m'a condamné. Voilà. Et de se retrouver seule avec le Christ, eh bien voilà, elle va être relevée, elle va être pardonnée, va désormais ne pêche plus. Et j'ai eu une distraction, mais vous pourrez faire la méditation chez vous aussi, c'est extraordinaire. Quand vous lisez la deuxième lettre aux Philippiens, mais vous dites, imaginons que ce soit la femme adultère qui lise cette deuxième lettre aux Philippiens. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures. Je trouve ça beau aussi de mettre, peut-être cette femme-là a lu cette lettre, on ne sait pas, mais bon, moi je trouve ça beau de mettre ces paroles de saint Paul dans la bouche de la femme adultère. Parce que elle a découvert en Jésus celui qui était son sauveur. Non seulement le sauveur de la lapidation, et donc de la mort, mais le sauveur de son âme. Elle est restaurée dans sa féminité blessée, elle est restaurée dans son amour et dans sa capacité d'amour. Elle peut à nouveau être à l'image, à la ressemblance de Dieu par son amour. Et donc, tout ça, un passage vraiment très touchant, que ce passage de la femme adultère, parce que c'est vraiment la mission de Jésus. Jésus qui ne s'arrête pas à la fragilité humaine. Bon, l'adultère, bien sûr, on ne va pas l'encourager, c'est évident. Mais c'est souvent de la fragilité humaine, c'est souvent, voilà, on a du mal à gérer parfois nos pulsions, on se laisse emporter par les tentations. Mais Jésus ne s'arrête pas là, il dit, voilà, moi je ne te condamne plus. Lève-toi, relève-toi. Relève-toi. Et donc, et ne pêche plus. La miséricorde, c'est la mission de Jésus. Et c'est pour ça que le Saint-Père a mis clairement cette année sous le signe de la misère. C'est la mission du Christ. C'est réconcilier, c'est pardonner. C'est pardonner. C'est pas établir une nouvelle loi, si ce n'est celle de l'amour, dont il y a un seul commandement, hein, le commandement nouveau, c'est pardonner. Alors, c'est beau de voir dans ce passage, de voir comment Jésus prend sur lui, il prendra sur lui, si vous lisez un peu quelques chapitres après, c'est à Jésus qu'on veut jeter des pierres. C'est à Jésus qu'on veut jeter des pierres. On le pousse vers l'escarpement. Je ne sais pas rappeler ce passage-là. On le pousse vers l'escarpement, loin de la ville, pour le jeter d'en haut. Et on lui jetait des pierres, on ramassait des pierres. Ces mêmes pierres qui n'avaient pas été jetées contre la femme adultère, d'une certaine manière. ont été jetés contre le Christ parce qu'il a pris notre place. Il s'est offert pour nous. Alors c'est beau, je pense, laissons-nous toucher par cet exemple tout simple de la femme adultère. Demandons au Seigneur nous-mêmes déjà d'avoir un regard de miséricorde lorsqu'on voit l'autre pécher, lorsqu'on voit l'autre tomber dans la tentation, tomber, voilà, et se laisser tenter et tomber, mais que nous puissions aussi nous-mêmes ne pas nous décourager face à nos chutes, hein, ne pas nous décourager parce que c'est vrai que, enfin, je suppose que beaucoup d'entre vous vous confessez, en tout cas assez régulièrement. Évidemment, le carême, c'est le temps particulier pour recevoir ce sacrement. Et c'est vrai que souvent, c'est dans les mêmes choses que nous disons là, la confession. De fait, le prêtre ne vous demande pas de faire dans l'originalité, histoire qu'il ne s'ennuie pas. Hein. Mais en même temps, je viens confier dans la confession mon combat à Jésus. Je viens lui confier mon combat. Mon combat pour la pureté, puisque là, il s'agit de l'adultère, mon combat pour la foi, mon combat pour la persévérance, mon combat pour la charité, la patience, la miséricorde, parce que j'en suis dépourvu. Alors demandons au Seigneur et à la prière du Christ, et peut-être à la prière de la femme adultère, on ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue, mais je ne serais pas du tout étonné qu'elle fasse partie des saintes femmes qui aient suivi le Christ après. Pourquoi pas, en tout cas. Voilà, c'est une interprétation libre, hein, parce qu'elle a expérimenté dans sa chair vraiment la miséricorde de Dieu. Nous demandons vraiment à la prière aussi de la femme adultère, sauvée, rachetée, qu'elle nous aide à croire en sa miséricorde.